Alors vous êtes toujours à l'écoute du réseau Éducation sans frontières, RESF, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net. On vient d'écouter, donc, qu'est-ce qu'on fait là, Jean-Philippe Riquel et Lansine Kouaté, et ça vient de l'album Kangaba Paris qui vient de sortir. On est toujours donc avec Clémence et Mathilde, et on repart donc tout de suite, Clémence, sur le Benny-Lamelo, puisque, enfin, sur la. Sur la folle ambiance. Et... Ouais. Donc, je t'avais coupé pour passer un peu de musique et on reprend.
Et oui, alors, bah, je vous parlais de l'imminence du passage de la durée maximum de rétention à 90 jours. Alors, bon, ça a été voté, le combat a été perdu par les associations et par toutes les personnes qui se sont mobilisées. Et là, normalement, ça va être appliqué au 1er janvier 2019 au plus tard. Nous, on pense qu'en effet, ce sera appliqué au 1er janvier. Là, pour l'instant, ça nous inquiète beaucoup parce que ça veut dire augmentation du nombre de placements dans un contexte où déjà depuis plusieurs mois, c'est très 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 tendu dans à peu près tous les CRA de France. On peut faire la liste un peu de tout ce qui s'est passé sur les derniers mois, mais l'événement vraiment le plus marquant, qui en plus était dans un CRA où nous, la CIMAD, on a des collègues présents, c'était le suicide d'un jeune homme en fait maghrébin au CRA de Cornebarieux, à côté de Toulouse, le 21 septembre. Un mec pour qui ça aurait pu être évité, pour qui ça aurait dû être évité, pour qui on n'a pas réussi à retrouver la famille à notre connaissance, parce qu'il était placé sous une identité qui n'était pas correcte. Donc, contexte un petit peu révélateur de ce qui se passe dans la tête de pas mal de personnes enfermées, et surtout, en fait, du traitement qui leur est réservé, parce que... Elle était où l'unité médicale, ils étaient où les policiers. Il me semble que c'est des co-retenus, donc d'autres personnes enfermées comme lui qui l'ont trouvé. Donc, détention, un incendie récemment au CRA de Marseille, je ne me rappelle plus la date exactement. Et puis, toujours toutes ces tensions qui sont dues au CRA plein, avec des bagarres, des violences policières, et des personnes qui, déjà à 45 jours, pètent rapidement les plombs à force d'être enfermées sans savoir à quelle sauce elles vont être mangées, si elles vont être expulsées ou non, et quand. Et avec aussi une pratique que nous on voit beaucoup au Ménil, qui est la pratique des vols cachés. Donc maintenant, en fait, la police n'informe pas les retenus lorsqu'il y a des avions. La loi le permet, en fait. Quand la police a des raisons de soupçonner que va y avoir un trouble à l'ordre public ou que le mec va se mettre en danger, il y a une clause du CESEDA qui prévoit qu'en effet, on peut ne pas informer le mec à l'avance qu'il y a un avion qui est réservé pour lui, pour l'expulser. Sauf que là, l'application de cette possibilité, elle est très très large. On cache les vols de façon récurrente et ça crée vraiment un climat de tension, de peur, de suspicion, de parano, qui amène vraiment les gens à péter des plombs. On dort moins bien. Des fois, on dort plus du tout.
Les personnes viennent régulièrement nous voir, nous demandant, mais un tel, il a été embarqué, ils sont venus le chercher à 4h du matin, ils l'ont scotché, ils l'ont bâillonné, et au revoir, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment vivre dans une peur permanente de l'expulsion, de façon violente.
On entend aussi des histoires à l'embarquement. On a la plupart du temps, en fait, les personnes qui sont embarquées, on n'a plus de nouvelles. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a parfois des personnes qui reviennent de tentatives d'embarquement, parfois assez violentes. On a entendu des histoires. On a entendu des histoires de personnes droguées avant l'expulsion, qui, en fait, pour l'une, se réveille à Khartoum, pour l'autre, se réveille au Maghreb. Enfin, on a entendu des histoires comme ça. Donc, tout ça, c'est lourd, c'est une violence qui est générale, qui est instituée dans l'ensemble des centres de rétention. Donc là, le passage à 90 jours, le passage à une durée de rétention de potentiellement 3 mois maximum, ça nous inquiète beaucoup. Et ce qui nous inquiète encore plus, c'est que là, au Ménil-Amelot, on a vu qu'il y avait d'ores et déjà un sacré renfort d'effectifs policiers, puisqu'il y a, je crois, 25 policiers en plus par centre de rétention, donc 25 au CRA 2 et 25 au CRA 3, enfin 25 par CRA du Ménil-Amelot, qui finissent là tranquillement leur période de formation. Et par contre, ce qui nous interpelle un peu, c'est qu'à notre connaissance, rien n'est prévu au niveau des autres services qui sont présents dans les CRA. Alors nous, la CIMADE, il n'est pas prévu qu'on ait du monde en plus pour aider les personnes qui pourraient y avoir. On n'a pas vraiment d'informations sur l'augmentation de placements. Pour l'instant, on est tenu au courant au jour le jour. On n'est pas au courant d'une augmentation, par exemple, du personnel de l'unité médicale, qui, au contraire, en ce moment, n'est pas forcément au top, puisque le psychiatre, donc le seul médecin psychiatre, parce que sinon il y a des généralistes, mais le seul médecin spécialiste du CRA, qui est un psychiatre, qui est censé venir deux fois par semaine, a été en arrêt maladie plusieurs mois et n'était pas remplacé. Donc il n'y avait plus de psy au centre de rétention. Moins de services aussi au niveau de ce qui est aide matérielle, parce que l'OFI, en ce moment, arrête de s'occuper des transferts d'argent des retenus. Donc voilà, là, on a tout un contexte global où on se dit comment ça va se passer. Est-ce qu'on est... Enfin, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on est en train de courir à la catastrophe. On se dit oui, là c'est vraiment possible qu'on court à la catastrophe avec une prolongation de la rétention à 90 jours dans les conditions qui sont celles qu'on a actuellement, quoi.
Alors, quand même préciser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la durée de rétention était de 6 jours.
Je
crois que c'est sous la présidence de M. Sarkozy qu'elle est passée donc d'abord à 12 jours, puis à 30 jours, puis à 45 jours.
Voilà.
Mais là, c'était plus Sarkozy, c'était Hollande, je crois, 45 jours. Et donc que maintenant, sous Macron, elle passe à 90 jours.
Ben oui, et on nous oppose, tu vois, que par exemple, dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus long. Je crois que les cadres européens, ils autorisent, je parle sous le contrôle de la collègue, les cadres européens, je crois qu'ils autorisent la rétention jusqu'à 6 mois. Donc en fait, on nous dit, oui, il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus long. Maintenant, en fait, il y a quelque chose de très compliqué à aborder, c'est en fait, pourquoi on allonge la durée de rétention ? Enfin, nous, de toute façon...
Avant de revenir sur pourquoi on rallonge la durée de rétention, c'est que pour dire que la rétention, c'est quand même quelque chose qui est une évidence pour nous, mais qu'il faut préciser, c'est un lieu qui est totalement anxiogène, parce qu'on est enfermé sans jugement, ou juste un jugement administratif qui dit qu'on est en situation illégale, mais qui peut tout à fait être contesté, et qui est tout à fait contestable, et c'est pour ça que pas mal de gens arrivent à sortir de rétention s'ils ont été libérés.
Un tiers des personnes enfermées est libéré par un juge. Hein. C'est qu'à un moment, il y a eu une erreur dans la procédure.
Donc c'est qu'il y a quand même au moins un tiers des enfermements qui ne sont pas légaux. Et que on ne sait pas... Quand on est en prison, on sait quand on va sortir à peu près. Là, on ne sait pas quand on va sortir. On ne sait pas par quelle porte on va sortir. Est-ce qu'on sort par la porte de la rétention ou est-ce qu'on sort par la porte de l'aéroport ?
C'est exactement ça, oui. Et puis, sur le climat, il suffit de le voir, le Ménil-Amelot, c'est aussi terrible en termes de climat, parce que c'est en dessous des voies aériennes qui débordent de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, en fait, quand tu es au Ménil-Amelot, je pense que toutes les 3 minutes, tu as un avion qui te passe au-dessus dans un bruit assourdissant. Et ça, plus la tension, plus le stress, plus ne pas savoir ce que tu vas devenir, ça devient très, très vite très, très pénible. Et puis les barbelés, la présence policière, le débat sur la durée de rétention, il est important parce qu'aujourd'hui, c'est terrible qu'on arrive à 90 jours. Mais la position de la CIMADE, c'est que devrait plus y avoir d'enfermement, devrait plus y avoir de centre de rétention. Et même un jour de rétention, c'est trop. Là, on a eu récemment une toute petite dame en rétention qui avait été victime de traite des êtres humains et qui se faisait dubliner. Il voulait la renvoyer en Italie. Bon, elle, c'est coup de chance. Elle a été libérée par le juge des libertés. Mais enfin, elle aura passé 24 heures en rétention, plus la violence de l'interpellation à domicile au petit matin. Bon, même un jour, là, en l'espèce, c'était beaucoup trop pour cette dame.
Voilà. Donc maintenant, je te demande pardon pour cette petite digression, mais je crois que c'était un petit peu important de la faire. Et ouais. Donc pourquoi passer à 90 jours de rétention ?
Alors pourquoi c'est terrible ? Parce que en plus, si vous voulez, nous ce qu'on a dénoncé beaucoup au moment du projet de loi, c'était de dire mais en plus ça ne sert à rien, même si on suit la logique de Macron, à savoir qu'il y a des personnes, au bout de 45 jours, on n'arrive pas à les expulser. Enfin, l'administration n'arrive pas à les expulser. Au bout de 90 jours, il y a des chances qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'il y a des personnes qui sont dépourvues d'état civil, il y a des personnes dont leur pays d'origine ne veulent plus, il y a des personnes pour qui l'administration n'aura jamais le laissez-passer, le papier magique qui permet d'expulser. Donc nous, notre discours, c'était de dire, attendez, 90 jours, donc potentiellement 3 mois d'enfermement, ça fait un trimestre hein, pour un parent d'enfant, c'est énorme. Pour, en plus, même si on suit votre logique, il est possible que vous n'expulsiez même pas plus avec ce truc-là. Donc c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Mais là, par contre, on revient un petit peu sur cet argument, parce qu'en fait, on voit que cette réforme de la rétention pour passer à 90 jours, en fait, elle s'accompagne d'un truc qui est particulièrement scélérat aussi, qui est l'action d'une espèce de nouvel ambassadeur de France auprès des pays de provenance des personnes migrantes. En fait, Macron a créé cette espèce de poste rattaché, alors je ne sais plus si c'est à l'intérieur ou aux affaires étrangères, enfin bon, c'est une espèce de poste d'ambassadeur de France qui va aller négocier avec les pays de provenance des personnes étrangères qu'on veut renvoyer pour négocier des accords en vue que ces pays-là délivrent des laissez-passer. Donc en fait, là, on est un peu inquiet. On est un peu inquiet parce que là, on se rend compte que, en effet, il y a beaucoup de pays qui vont commencer à donner des laissez-passer alors qu'ils ne les donnaient pas forcément jusqu'à présent. Mais pour en parler et peut-être pour faire le lien un petit peu aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, on avait prévu de vous parler de Calais et de vous parler de la situation des Irakiens.
Notamment, oui, parce qu'on voit de plus en plus arriver des personnes qui viennent du campement de Grande-Synthe, que là, la préfecture du Nord et du Pas-de-Calais ensemble. Hein. Mais bon, là, c'est essentiellement des placements du préfet du Nord, mais qui cherchent à démanteler. Et donc, du coup, on a eu plusieurs vagues de personnes raflées. Il y a eu 3 rafles en septembre. Là, en novembre, on en est à la deuxième. Et ce sont essentiellement des personnes de nationalité irakienne qui sont placées sur des obligations de quitter le territoire vers leur pays d'origine, vers l'Irak. Et jusque-là, les personnes qui n'avaient pas de documents restaient en CRA 45 jours, donc avec tout ce que ça implique au niveau psychologique et même physique. Mais là, ce qui nous fait vraiment très peur, c'est qu'il y a une sorte de délégation consulaire irakienne qui est en train de faire le tour des CRA pour que les ressortissants irakiens soient reconnus et pour finalement mettre en œuvre des renvois vers l'Irak. Donc, enfin, la France renvoie en Irak, c'est ce qu'il faut se dire. Et voilà, on va suivre de très près donc, le travail de cette délégation pour voir si ça va aboutir effectivement sur des expulsions concrètes. Mais en tout cas, c'est très inquiétant pour ces personnes qui vont être renvoyées dans un pays en guerre, en fait, tout simplement. Sans parler de la politique du préfet du Nord qui finalement place ces personnes en rétention aussi finalement pour démanteler les campements qui existent dans le Calaisie sans prendre en considération sans qu'il y ait un traitement humain, puisque finalement on parle souvent de démantèlement pour replacer ces personnes dans des conditions plus dignes, etc., etc. Non, les personnes se retrouvent en centre de rétention pour être expulsées. Il n'y a pas de... Voilà, là-dessus, il n'y a pas de secret. Hein.
Voilà, je crois que... Alors là, je le dis de tête, hein, je n'ai pas mes fiches avec moi, mais le démantèlement, la destruction, la dévolution du camp à Grande-Synthe, c'était 450 personnes quand même.
Oui, oui, oui. Et puis il y en a une centaine en ce moment qui sont dans les centres de rétention. Donc de toute façon, c'est... C'est ça qui est inquiétant.
Ouais, c'était 115 personnes pendant la dernière rafle, là, celle du 13 novembre. 115 personnes qui ont été dispatchées dans tous les CRA de France. Les juges ne se sont pas trop inquiétés. Nous, les échos qu'on a eus dans les CRA où la CIMAD intervient, c'est que la rétention a été prolongée. Personne n'infirmait la perspective d'un renvoi en Irak, alors que c'est quand même pas évident en Irak en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui est assez nouveau vis-à-vis du consulat irakien, c'est qu'ils se mettent à reconnaître ces ressortissants et à potentiellement autoriser les expulsions en Irak. Parce qu'il y a encore quelques mois, nous, on avait des infos là-dessus. le consulat irakien considérait que toute personne qui avait réussi à quitter le pays était potentiellement un réfugié. Tellement c'était la merde en Irak, le consulat irakien avait vraiment fait savoir aux autorités françaises qui voulaient renvoyer des Irakiens qu'en fait... Il considérait que vraiment, à partir du moment où un Irakien avait réussi à partir, il était potentiellement un réfugié. Ça dit bien la gravité de la situation en Irak, quoi. Et ça ne s'est pas réglé depuis le changement de politique et depuis les probables négociations entre les autorités françaises et irakiennes.
Et ça ressemble tout à fait à ce qui se faisait il y a pas très longtemps, ce qui se fait peut-être toujours, avec les tournées des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur soudanais. La police soudanaise qui venait dans les CRA et voir qui était expulsable au Soudan.
Oui, c'est la même logique. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, on voit aussi énormément de renvois au Maroc, puisqu'il y a une mission effectivement des autorités marocaines pour venir un peu reconnaître les jeunes marocains là de la chapelle de la Goutte d'Or. Et en fait, ça a aussi, on a remarqué que concomitamment, on a eu beaucoup plus d'expulsions vers le Maroc. Donc on pense que la délégation n'est pas venue seulement pour les jeunes. Enfin, ça, c'est clair que dans les centres de rétention, ça s'est ressenti. Donc il y a de plus en plus d'accords, en fait, entre les autorités françaises et les autorités de pays tiers, quoi, vers lesquels sont renvoyées les personnes des centres de rétention.
Ok.
C'est gay, hein ?
Oui.
Alors... De quoi on voulait vous parler aussi aujourd'hui ? Ah ben on voulait fêter avec vous, hein, joyeuse journée des droits de l'enfant. C'est avec un jour de retard, mais on voulait le fêter quand même, parce qu'on a deux mineurs au CRA du Ménil en ce moment, qui sont deux ados non accompagnés. Ça vaut le coup de marquer un petit peu le coup pour la journée internationale des droits de l'enfant. On a notamment dans les raflés qui sont arrivés, c'était une dizaine de ressortissants irakiens qui sont arrivés au Ménil pendant la dernière rafle. Et ben, parmi eux, il y avait un jeune homme mineur, puisqu'il est né le 15 septembre 2001, nous dit-il, mais pour qui la police a noté sur les documents et sur la procédure d'éloignement qu'elle a faite, a noté 15 septembre 2000 comme date de naissance. Donc voilà, on change juste un chiffre. Pour faire passer le jeune homme de mineur à majeur.
C'est une pratique qui se fait très régulièrement, aussi à la frontière avec l'Italie, ça. Et un peu partout, ça peut passer pour une coquille, mais ça ne l'est pas.
Non, c'est pas une coquille, parce que tu remarques que souvent, ça se fait dans un sens ou dans l'autre, et que pour les mineurs isolés étrangers, enfin pour toutes les personnes se disant mineurs et qui du coup... à ce titre, sont protégés contre l'expulsion et peuvent prétendre à une prise en charge et à une protection en tant qu'enfant, bah là, c'est toujours dans le même sens qu'elle est l'erreur matérielle. On les vieillit toujours, toujours d'un an, quoi.
Oui, on n'a jamais eu de majeur considéré mineur par erreur. Enfin, ça n'existe pas.
Voilà. Non, c'est à sens unique. Et donc, ce jeune homme-là, on fête son 8e jour de rétention aujourd'hui, après qu'il se soit donc fait interpeller dans la jungle où il dormait avec des adultes, que les policiers soient venus et il leur ait dit « Vous inquiétez pas, on va vous emmener dans un hôtel ». Et en fait, ça n'a pas été l'hôtel, ça a été le commissariat avec, nous a raconté le jeune homme, des tentatives de violence physique sur les migrants, et puis un transfert qui a pris une journée pendant laquelle le jeune homme n'a pas pu manger. Donc ça n'a ému aucun juge jusqu'à présent, mais il a seulement vu le juge des libertés. Et il a essayé de faire casser la décision de prolongation de rétention par le juge des libertés en allant en cour d'appel. La cour d'appel a confirmé le maintien en rétention. Et là, pour l'instant, on attend de voir ce que va dire le tribunal administratif sur sa situation. Sachant que malheureusement, ce jeune, il n'a aucun document, il n'a que ce qu'il dit. Il n'a aucun moyen matériel de prouver sa minorité. Donc c'est un cas un petit peu emmerdant, parce que c'est le moment où, pour le coup, des fois, on a presque envie de réclamer un test osseux, alors qu'à la base, on n'est pas vraiment pour. Mais là, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit par tout moyen à tous les juges.
En fait, le souci, c'est que le doute devrait profiter aux mineurs. Sauf qu'en fait, quand une personne se déclare mineure, on lui demande d'en apporter la preuve. Et quand c'est des personnes qui ont des parcours d'exil difficiles, qui ne voyagent pas avec leurs documents, ni avec leur acte de naissance, enfin, personnellement, je ne me balade pas non plus avec un acte de naissance sur moi pour prouver mon âge, c'est très difficile pour ces personnes-là de les aider, de faire reconnaître leur minorité. Et la deuxième personne mineure qui se trouve actuellement au centre de rétention, c'est une jeune femme de 17 ans, gambienne, qui s'est fait interpeller à Gare du Nord alors qu'elle essayait de prendre le train pour rejoindre son frère qui se trouve en Angleterre. Et pour elle, elle a réussi donc à se faire envoyer une copie de son acte de naissance avant-hier. Il y a plein de signalements qui ont été envoyés au conseil départemental, au procureur, la chef de centre est au courant, etc. Mais elle est toujours au CRA, c'est son 10e jour. Et voilà, elle attend de savoir ce qui sera décidé sur son sort.
Donc on attend de savoir ce qui va se passer, sachant que pourquoi c'est grave de... Enfin, pourquoi c'est encore plus grave que d'enfermer, parce que c'est grave d'enfermer n'importe qui en centre de rétention, mais pourquoi c'est encore plus grave pour eux ? Parce que c'est des enfants et qu'en fait, là, tant que l'administration s'entête à pas reconnaître qu'ils sont mineurs, ils sont traités comme des majeurs. Ça veut dire que... Alors, on parle pas de quartier majeur parce qu'on n'est pas en prison, mais si tu veux, ils sont pas en zone famille. Ils sont avec les adultes. Donc, enfin, potentiellement, c'est pas terrible. La jeune fille, heureusement, elle est en zone famille, parce que la zone femme et la zone famille, c'est la même chose. Mmh. Mais enfin, le jeune monsieur irakien de 17 ans, il est avec les adultes. C'est tendu, le climat, chez les adultes.
Oui, ça ne devrait pas être, tout simplement.
Ben non, ça ne devrait pas être.
Et donc, tu parlais aussi de quelque chose qu'on voit et qu'on voit très souvent avec RESF, et c'est une grande partie de nos mobilisations, des parents qui sont en rétention, des parents qui sont expulsés avec les enfants qui restent ici.
Ah bah là, c'est le cas pour un jeune monsieur pour qui on a publié une actu Facebook. Là. On a un homme, un monsieur qui est albanais, qui arrive en France en 2013, qui a passé son CAP ici, qui travaille depuis. Et bah là, il s'est marié avec sa compagne cet été en Albanie. Puis ils ont fait transcrire le mariage dans l'état civil français. Donc il a son livret de famille français. Hein. Et là, sa compagne, elle est enceinte de 6 mois. Et il est au CRA. Et écoute, rien n'a marché. On s'est fait, il s'est fait débouter par tous les juges de toutes ses demandes. Et donc là, il attend son vol, un peu la mort dans l'âme. Et le problème en plus, c'est que maintenant, très souvent, les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire, les décisions d'expulsion, elles sont accompagnées d'interdictions de retour. Et donc là, lui, il a une interdiction de retour pendant 2 ans. Ça veut dire pendant 2 ans, il n'a pas le droit de rentrer en France. Pendant les deux premières années de son enfant... Comment ça va se passer ? Sa femme, elle va venir tous les week-ends en Albanie avec le petit. Enfin, là, on sépare une famille et on sépare un enfant de son père pendant potentiellement 2 ans, quoi.
Et puis il y a au Ménilamlo quelque chose qu'on trouve aussi à Calais, qu'on trouve aussi à Marseille. C'est la salle d'audience donc du juge des libertés et de la détention qui est à l'intérieur du centre.
Alors, officiellement, c'est pas à l'intérieur, mais en vrai, on peut y aller à pied, effectivement. Donc, en fait, c'est effectivement le tribunal de grande instance a une annexe au Ménilamlo, finalement dans la même rue que le centre de rétention, c'est les mêmes bâtiments, presque. Pour garder les formes, les retenus sont quand même obligés de prendre la voiture de police, passer par l'extérieur et re-rentrer. Mais effectivement, c'est à peu près le même endroit. Et ça crée toute une série de problèmes. Tout d'abord parce que pour les personnes étrangères, elles ne comprennent pas... c'est très difficile en fait de dissocier le lieu d'enfermement du lieu où on va pouvoir défendre sa situation quand en fait il s'agit du même endroit. Donc les retenus le surnomment le juge Bonjour 28 jours. Parce qu'effectivement, les personnes arrivent. Il y a des audiences qui peuvent parfois durer 1 minute top chrono. C'est-à-dire qu'on lit sur le nom, le prénom de la personne, sa date de naissance. On dit, voilà, l'avocat ne soulève pas peu ou pas grand-chose. Et le juge dit, je prolonge, merci, au revoir. Quoi. Donc il y a déjà ce problème du lieu. Il y a aussi le problème de la visibilité des audiences. C'est-à-dire que ces audiences sont censées être publiques. Sauf que qui va aller au Ménilamlo regarder une audience et en plus, si vous y allez et que vous réussissez à entrer, bravo, parce que la porte, donc la grille du tribunal, est souvent fermée par une chaîne. En fait, il faut savoir qu'on peut pousser cette porte et entrer sous la chaîne. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu acrobatique, mais on a le droit d'entrer. Mais dans ces conditions, enfin, comment on peut dire que la justice qui est exercée au nom du peuple français est exercée dans des conditions acceptables ? C'est toujours quelque chose qui m'interroge. Et ça, on le fait de plus en plus, parce que c'est ce qu'ils ont fait aussi au niveau de la zone d'attente. Donc, c'est un autre lieu d'enfermement des étrangers, pour les étrangers qui arrivent sur le territoire. Et pareil, là, l'annexe du tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert, donc, au pied des pistes, accolé à la zone d'attente.
Voilà, donc ce qui permet, donc la publicité des audiences, c'est quand même quelque chose qui est capital, qui est absolument nécessaire, ce qui permet aux citoyens de vérifier, d'être là, d'attester. On sait que les choses se passent parfois différemment s'il y a du public, s'il y a des soutiens qui sont là, et que là, il suffit de nommer un juge, enfin, je ne sais pas comment les juges sont nommés, et donc aller au Ménilamlot et aller à l'audience au Ménilamlot, pour en avoir fait quelques-unes, c'est compliqué, il faut aller... Donc il faut d'abord trouver comment on fait pour aller au Ménilamlot, soit par la route, soit en transport en commun. Ça coûte cher. Quand on est la famille, qu'on n'a soi-même pas forcément des papiers, on n'y va pas, on ne va pas se mettre dans la gueule du loup. Et c'est assez horrible, quoi.
Oui, et puis un contrôle policier à l'entrée. Nous, on essaye d'y aller régulièrement pour écouter les audiences. Et souvent, les policiers à l'entrée nous demandent « Mais vous venez voir qui ?» Mais on n'a pas besoin de venir voir quelqu'un pour assister à une audience. Ce sont des audiences publiques. Et donc, nous, on insiste. On connaît le nom des personnes qui vont passer ce jour-là devant le tribunal. Mais on insiste pour pouvoir entrer de manière libre. On n'est pas censé être bloqué parce qu'on ne connaît pas la personne qui va être jugée ce jour-là.
Oui, sauf qu'une personne qui n'est pas au courant, elle va répondre, elle va essayer de se justifier. Je viens voir monsieur. Ah, mais en plus, ça se trouve, une fois sur deux, le monsieur a donné un alias. Ou alors, le nom a été mal orthographié, donc c'est pas bon. Enfin, non, mais sur la publicité des audiences, il y a un vrai problème. Et je pense que c'est pas sans lien avec... je pense qu'il y a des problèmes en termes de comment la justice est rendue là-bas qui sont en lien avec ce déficit dans la publicité des audiences. Enfin, il y a eu un juge qui était surnommé, là il est parti depuis un peu plus d'un an, mais il y a eu à l'annexe du juge des libertés de Meaux au Ménilamlot, pendant plusieurs années, un juge qui avait un taux de libération inférieur à 1%. Tous les retenus l'appelaient le juge à 100%. C'était un juge qui ne libérait pas, alors que tu as quand même une moyenne, enfin... Chaque juge libère un petit peu plus, un petit peu moins. Tu sais hein, qu'il y a des juges qui libèrent plus que d'autres. Tu t'en rends compte assez rapidement. Mais enfin, si tu veux que tu aies un taux de libération, je crois que c'est à peu près 20%, entre 20 et 25% le taux de libération des retenus par le juge des libertés et de la rétention. Là, tu as un mec qui libère jamais. Tu dis, mais attends, ça se passerait ailleurs ? Si tu avais une salle remplie de personnes, il l'assumerait pareil. Mais non, mais cet endroit n'est pas un lieu où la justice se rend comme dans le reste des lieux où se rend la justice, comme dans un palais de justice à Paris. Où...
Et puis la délocalisation des audiences, ça partit vraiment de poids, de mesure. Quoi. La justice rendue pour les étrangers, on la rend dans un petit coin. Ce ne sont pas des justiciables comme les autres. Ce sont des étrangers, donc on peut les juger un peu n'importe où, là, dans une espèce de... dans une petite salle où personne n'a le droit d'entrer. Voilà, c'est... D'où le grand sentiment d'injustice, en fait, quand les personnes reviennent, en général, de l'annexe du tribunal.
Oui, bonjour, 28 jours, comme tu disais. Mais enfin, il n'y a pas que le juge des libertés, parce que là, nous, depuis quelques mois, on voit aussi les auditions à l'OFPRA. L'audition des demandes d'asile qui jusqu'à présent se faisait toujours en présentiel à l'OFPRA, donc tu te rends à l'OFPRA, donc quand tu fais ta demande d'asile en rétention, les policiers t'emmènent jusque là, t'as accès à un petit bureau avec l'officier de protection qui va étudier ta demande et un interprète. Et ben nous, depuis quelques mois, en fait, maintenant, ça se fait par visioconférence dans une espèce de petite boîte au centre de rétention du Ménilamlot, une petite salle de, je sais pas, 2 mètres sur 2, qui au début était mal insonorisée, donc en fait les personnes se retrouvaient pour raconter leur histoire, qui est quand même parfois très personnelle et très délicate, face à une petite caméra dans le petit box, avec la police de l'autre côté de la porte qui entend tout. Ça, c'est des policiers qui l'ont dit à nos collègues à la fin d'une demande d'asile. Des policiers qui entendent potentiellement tout. Donc, ça veut dire que n'importe quel retenu qui passe dans le couloir, il peut tout entendre. Enfin, Là, sur les demandes d'asile, c'est en train de devenir compliqué aussi en termes de comment le oui. droit est rendu, quoi.
C'est très compliqué. Quel parce traitement que, on réserve oui, aux étrangers. Vraiment, pour vous faire une image, imaginez vraiment un placard à balai. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est ça. C'était un ancien réduit de rangement. C'est un placard à balai où il n'y a pas de fenêtre et où les personnes sont dans le centre de rétention et où, du coup, il est impossible de se sentir en confiance, en fait, pour s'exprimer sur sa demande d'asile. C'est très compliqué de comprendre que la petite personne qu'on voit sur l'écran est en fait censée vous protéger. C'est très incohérent.
Ouais, c'est compliqué à matérialiser. Et du coup, forcément, quelqu'un qui ne se sent pas en confiance, il ne va peut-être pas répondre de façon très détaillée. Il ne va peut-être pas être très enclin à vraiment aller au fond de ce qu'il a à dire. Et en général, quand tu vois les résultats des demandes d'asile en rétention, on reproche aux retenus des propos peu circonstanciés, évasifs. Tu vois, on reproche aux retenus de ne pas avoir vraiment réussi à convaincre de la réalité de leurs craintes, tu vois, et de la réalité de leur histoire, parfois. Et ce n'est pas sans lien avec les conditions de l'entretien pendant lequel c'est fait. Enfin là, on a entendu que c'était un peu mieux. Ils ont mis de la mousse pour isoler un peu du son. Apparemment, il fait une chaleur à crever du coup dans le box.
Oui, c'est génial.
Moi, j'y ai pas été, mais toi, tu y as été.
On avait fait une émission il y a pas très longtemps avec une avocate de la CNDA quand la CNDA était en grève et qui disait justement en parlant des audiences à distance, là, par visioconférence, que c'est pas quand on parle avec quelqu'un qui raconte des choses et des choses qui sont en général terribles, qui ont été vécues pour venir, enfin, les raisons pour lesquelles on a fui, les raisons pour lesquelles on est ici et le trajet, on a besoin d'un contact, on a besoin de voir la personne, pas de voir un écran. Ça marche pas si on voit un écran.
Bah non, mais
oui, c'est ça, c'est. C'est par écran, en plus l'interprète aussi est de l'autre côté de donc est avec l'officier de protection donc est à travers l'écran donc il y a des difficultés de compréhension parfois enfin c'est très dur de parler à quelqu'un par visioconférence et surtout que donc la CIMAD est une des associations habilitées pour accompagner les demandeurs d'asile pendant leur entretien. Dans ce box il n'y a aucune place de prévu, c'est-à-dire que quand nous on accompagne les personnes, heureusement qu'on les connaît un petit peu avant parce qu'on est collé à elles entre le mur et leur chaise à eux qui est fixe. Enfin, c'est vraiment. C'est pas des conditions dans lesquelles on peut se sentir légitime et en confiance pour parler sur des choses très personnelles et très dures. Mmh.
Alors là, je vois que les oreilles loin du front, excellente émission, commencent à s'installer dans les studios. Donc peut-être un petit mot pour conclure avant de passer à l'agenda.
Bah moi, mon petit mot, c'était justement un petit point agenda. C'était la manifestation de vendredi.